Bonjour à tous. Dans son projet pour l'humanité, Dieu a choisi un homme, Abraham, avec qui il fait alliance. Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, Isaac, son fils, Jacob, dont le nom fut changé en Israël, son petit-fils, avec ses 12 enfants, dont Joseph, permettent de démarrer ce projet qui veut le bien pour l'humanité. Joseph installe sa famille en Égypte, où les descendants deviennent esclaves au service du Pharaon pour plusieurs générations. Dieu n'oublie pas son alliance et il permet que Moïse libère son peuple de l'insupportable esclavage. Conduit dans le désert après la traversée à sec de la mer Rouge, le peuple descendant d'Israël se cherche une identité en rapport avec son lien privilégié avec le Dieu le Créateur. La loi est donnée à Moïse sur la montagne, alors que, dans la vallée, le peuple se fabrique et se prépare à adorer un veau d'or, histoire de rendre la divinité visible, comme ce qu'ils ont pu connaître en Égypte. 40 années à tourner en rond dans le désert et l'envie d'en sortir. À la limite de la zone désertique, les Israélites côtoient les filles de Moab. Nombre 25, verset 3. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux des Moabites. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Le dérapage est gravement réprimé afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Nombre 25, verset 4. Premier dérapage, première sortie de route du projet de Dieu, simplement parce que, après des mois et des années à errer dans le désert, il s'est présenté une opportunité pour se donner du bon temps, en répondant à l'invitation des païens pour une découverte culturelle et religieuse. Dieu est patient. La séquence de punition et de rétablissement de l'ordre d'une extrême violence se finit quand même par une alliance de paix pour la lignée des sacrificateurs descendants d'Aaron. Chapitre 25, verset 12. On ne s'arrêtera pas là. Dieu continue de donner sa loi avec plus de détails pour le peuple au bénéfice de l'Alliance. Au final, de nombreuses obligations et interdictions, il paraît qu'il y en a à peu près 650, pour tous les aspects de la vie au quotidien et de la vie en société, et les châtiments à mettre en œuvre pour punir les infractions à cette loi. Globalement quand même, avec un peu de hauteur, et par comparaison aux lois des peuples voisins de l'époque, l'observation, la mise en œuvre de cette législation permettait une vie sociale apaisée où les intérêts des précaires, veuves, orphelins, étrangers étaient pris en compte et cette loi créait un environnement économique où l'accès à la production et au partage des richesses était encadré pour éviter la concentration et l'accumulation de biens et de pouvoir par une minorité. Vous noterez bien que cette loi a été donnée par Dieu à travers Moïse pour le bien de tous et non pas imposée de manière autoritaire par un dirigeant despotique et pour son intérêt personnel. Après avoir donné la loi, Dieu donne la terre promise, le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Pays fertile, mais déjà occupé par les Cananéens. Hittites, Amorites, Périsites, Hivites, Jébusiens, pour ne citer que ceux dont on donne le nom dans la Bible. Dieu donne le territoire au peuple d'Israël, mais ils doivent le conquérir. Dieu donne la victoire à condition que le peuple en conquête reste attentivement à son écoute. À chaque épisode où l'excès de confiance en la force et l'intelligence humaine prend le pas sur la soumission et la confiance en Dieu, c'est l'échec, le revers de bâton. Néanmoins, le projet divin arrive au terme de son étape. Israël s'installe dans le pays promis et s'organise pour que chaque individu puisse se nourrir au quotidien, développer une vie sociale et religieuse apaisée, pour que l'ensemble puisse être le révélateur du projet de Dieu de justice et de paix pour tous. Mais, les humains étant ce qu'ils sont, les écarts et les dérapages continuent. Dieu le Créateur qui donne sa loi, qui donne la terre promise, qui donne les fruits du travail de la terre pour le bien de chacun et le bien de la société, ne reste pas au centre des préoccupations des descendants d'Abraham. Israël réclame un roi. Samuel a bien cherché à dissuader le peuple de demander un roi, mais la demande était insistante. Nous voulons un roi comme les autres nations. 1 Samuel 8. Saül, bof. David, pourquoi pas. Salomon, peut-être. Ensuite, le pays est divisé. Au sud, Juda et Benjamin, autour de Jérusalem, et au nord, les 10 autres tribus. On l'appelle également le royaume de Samarie, du nom de sa capitale, ou le royaume du nord, ou simplement Éphraïm, du nom de la tribu la plus nombreuse. On vient d'en perdre quelques-uns en route, là. On va essayer de projeter une carte pour vous retrouver. Voilà ce dont on parle. Donc c'est l'Israël du temps du peuple d'Israël qui venait après Salomon. Et donc il y a le royaume du sud qu'on appelle toujours Juda, et le royaume du nord qu'on appelle Israël ou royaume du nord avec sa capitale qui est Samarie. Et vous voyez qu'autour, il y a différents peuples, des Ammonites, des Moabites, des Édomites, des Arabes, des Philistins et des Phéniciens et des Syriens. Voilà, c'est le contexte géopolitique de l'époque. Voilà pour le contexte et nous continuons avec la lecture du chapitre 17 du deuxième livre des Rois, versets 1 à 23. Je peux la laisser pendant la lecture. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Sô, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut du roi d'Assyrie. Donc c'est les Assyriens là, hop, ils sont venus ici pour faire le bazar. Mais le roi d'Assyrie découvrit donc qu'il y avait une conspiration, et donc le roi d'Assyrie fit enfermer Osée et dans une prison. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash, sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Donc voilà la partie qui nous intéresse après, qui arrive. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu les choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis des tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances ». En suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leurs coups comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent les lois l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après les choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Alors que Dieu, l'Éternel, a tout mis en place pour que les descendants d'Abraham puissent être une nation qui reflète le projet de Dieu, une nation qui draine les bénédictions divines pour le bien de tous, le peuple se livre à l'idolâtrie et suscite le courroux de l'Éternel. L'idolâtrie a été la raison principale pour laquelle Dieu a décidé de chasser le peuple d'Israël de la terre promise et de l'envoyer en exil. Ils craignirent d'autres dieux, ils suivirent les coutumes des nations autour d'eux, ils firent des choses en secret, des choses qui ne font pas bien, ils firent des choses mauvaises comme nous avons lu. Les prophètes mettaient en garde le pouvoir politique royal et le peuple sur les conséquences d'un éloignement de la loi de Moïse et de l'abandon du Dieu créateur comme seule divinité. Les prophètes reprochaient également au peuple une désobéissance générale aux lois de Dieu qui se traduisait par de l'injustice sociale, des inégalités économiques, de la corruption et des violences. À y regarder de près, on s'aperçoit que ces braves Israélites, en principe au bénéfice de l'alliance faite avec Abraham, ont simplement cherché à vivre comme les païens des peuples voisins. L'idole la plus souvent citée est Baal, un dieu cananéen qui avait la réputation de procurer la fécondité et la pluie dont les agriculteurs avaient besoin pour que leur élevage et culture réussissent. Mettez-vous à leur place. À la sortie du désert, après la conquête de la terre promise, il faut se mettre à la production agricole. Et pour cela, c'est quand même certainement l'observation des pratiques des peuples païens voisins, en tout cas pour la première génération, qui était tout à fait nécessaire. Si l'invocation, le culte rendu à Baal, faisait partie des pratiques agricoles, la tentation était forte de simplement faire comme les autres. Et en plus, si ça avait l'air de marcher. Cela n'empêchait probablement pas de célébrer les grandes fêtes tout au long de l'année de la tradition d'Israël, et en particulier de se souvenir de la sortie d'Égypte, de la libération de l'esclavage. En conséquence, on aboutit rapidement au mélange, au syncrétisme, un peu de Dieu de la Bible, un peu de religion païenne, un peu de corruption et de débauche, sans se rendre compte qu'on est en train de passer complètement à côté du projet de Dieu pour son peuple et pour les nations de la terre. Dès le désert, les Israélites ont été séduits par Baal de Péor, comme cité déjà au début. À plusieurs reprises, les Israélites commencèrent à rendre un culte aux Baal et aux Astarté. Samuel y met fin, 1 Samuel 7, 3 et 4. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël étaient ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. L'idolâtrie a repris plus tard, en particulier du temps du roi Achab et de sa chère Jézabel. Mais le prophète Élie, au péril de sa vie, a incité une fois de plus à un retour vers le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, après une confrontation spectaculaire pour mettre fin à une période de sécheresse insupportable. La religion des peuples de Canaan a souvent attiré les Israélites. Les Israélites ont simplement voulu être comme les autres. Malgré les avertissements de Moïse dans Deutéronome 7, versets 3 et 4, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils se détourneraient de moi, tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammeront contre vous, ils te détruiraient promptement. » Malgré ces mises en garde, le peuple de Dieu se laisse aller à l'idolâtrie. En agissant de la sorte, en apparence, c'est pas si grave que ça. On fait juste comme les autres. Ils ne sont pas si différents de nous. On veut juste découvrir leur culture, leurs pratiques religieuses, leur spiritualité et leurs valeurs. Cette attitude nous amène directement à nous opposer, même inconsciemment, au projet de Dieu pour l'humanité. Génération après génération, les tentations restent les mêmes. On fait simplement comme les autres, comme les gens du monde, pour utiliser une notion du monde évangélique. Et on finit par provoquer la colère de l'Éternel. L'alliance faite à Abraham s'est élargie à toutes les nations de la terre depuis l'œuvre terrestre de Jésus-Christ, Fils de Dieu devenu homme. Par l'acceptation du salut en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu et nous faisons partie du peuple de Dieu au même titre que les descendants d'Abraham, et nous nous comportons quelquefois aussi lamentablement que le peuple d'Israël et suscitons potentiellement la colère de Dieu. Bien sûr, Baal, Astarté et Vaudor ne sont plus d'actualité. Mais ce qui est dénoncé par les prophètes comme Amos ou Osée reste parfaitement actuel. L'idéologie qui s'exprime par les activités cultuelles idolâtres de l'époque est toujours en vigueur. On se fie aux possibilités humaines, comme les ressources financières, la force militaire ou les ruses, et comme au jour du prophète, on compte dessus pour atteindre toujours le même objectif, assurer sa prospérité, sa sécurité et son bien-être sans adhérer réellement et contribuer à l'avancée du projet de Dieu. Les prophètes s'adressent au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu actuel. Inconsciemment, en cherchant simplement à faire comme les autres, nos contemporains, nous investissons une grande partie de nos moyens pour, au final, nous servir nous-mêmes et assurer notre bien-être personnel, plutôt que d'investir notre énergie, nos moyens, notre temps terrestre, au service de la restauration des relations, de la restauration de tout ce qui a été dégradé par le choix des humains qui vivent en rébellion contre le Créateur. Nous trouverons nous-mêmes des domaines de nos vies où Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, et nous sommes aussi lamentables que les Israélites qui invoquent les Baals pour améliorer les récoltes et se payer du bon temps en compagnie des païens. Quelquefois, le paganisme ambiant est subtil et caché. Et nous avons vraiment besoin que des prophètes nous rappellent les fondamentaux de notre relation avec notre Seigneur et notre Sauveur. Je citerai entre autres deux idolâtries contemporaines qui pourrait bien nous exposer à la colère de Dieu. La première, croire que la solution aux problèmes du monde vient de l'humain. La science a fait et continue de faire des progrès. Dans certains domaines, elle nous rend la vie plus facile, mobilité, communication, santé. Mais la science ne fait que de trouver des réponses à des questions sans se préoccuper des motivations et des conséquences de la mise en œuvre et de l'application des nouvelles découvertes. La science et les techniques qui en découlent n'ont aucun souci de cohérence avec le projet de Dieu pour les humains et cherchent plutôt à nous détourner de la recherche de la volonté de Dieu pour nos vies, pour l'Église et pour la société. La deuxième idolâtrie, croire que la solution aux problèmes du monde vient du développement économique. Pour subvenir à nos besoins, manger, se loger, se soigner, nous sommes amenés à travailler selon nos possibilités. Dans la Bible, l'homme travaille et Dieu donne selon ce qui est nécessaire et même plus pour que tous les 7 ans soient une année de repos, l'année sabbatique, où l'on vit de l'excédent des 6 années de travail précédentes. Dans le système économique biblique, tous les 49 ans, il était prévu l'année du jubilé où l'ensemble des moyens de production, la terre en particulier, revenait aux noyaux familiaux selon la répartition initiale après la conquête du pays de Canaan. Automatiquement, les concentrations de richesses excessives n'étaient pas possibles. Malheureusement, cette partie du projet divin n'a guère été mise en œuvre. De nos jours, l'idolâtrie ambiante et sournoise, le système économique mondialisé n'a plus qu'un objectif, c'est la concentration de richesses excessives dans les poches d'une minorité, avec comme conséquence peu de moyens pour soulager la pauvreté, ici et ailleurs, la précarité des accidentés de la vie, des veuves, des orphelins et des migrants. Le système économique actuel, inventé par les hommes, ne fait pas partie du projet de création divine. Il n'existe que pour accélérer la concentration, l'accumulation de richesses pour ceux qui s'approprient le système. Jésus lui-même l'a clairement exprimé. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de la richesse et de l'argent. Pour conclure, lorsque nous devenons enfants de Dieu après notre conversion, naturellement nous sommes amenés à chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous personnellement, pour l'Église et pour la société. Nous prions, nous l'avons chanté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut, il peut nous le révéler dans l'intimité de notre relation avec lui, il peut nous le révéler au sein de l'Église à travers un échange fraternel, mais nous trouvons certainement de manière moins discutable la volonté de Dieu dans sa parole. L'Ancien Testament donne toutes les clés pour prendre conscience de ce que Dieu veut pour sa création, et nous découvrons, après la chute, la rébellion des humains contre son autorité, que Dieu n'a de cesse de nous proposer la restauration de notre relation avec lui. Notre part d'humanité nous pousse sans cesse vers l'idolâtrie et dans nos écarts, nous nous exposons à provoquer la colère divine. La plupart du temps, Dieu n'a pas été au bout de sa colère. Et il y a toujours un temps de repentance pour remettre en cause et repartir sur une base plus saine. Jésus nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est encore là. N'hésitons pas à dénoncer les idolâtries modernes. Nous savons déjà qu'une création restaurée est en projet. Soyons des ouvriers de ce projet divin. Au-delà de la colère divine qui nous pend au nez à cause de notre idolâtrie, nous savons que notre avenir est fait d'espérance jusqu'au terme du projet de Dieu qui installera son royaume de paix et de justice sur terre et où Jésus règnera pour toujours. Amen.